Bien, ben bonjour à tous, hein. C'est toujours une bonne chose de venir. C'est vrai que j'étais venu il y a déjà quelques années, mais ce n'était pas aussi bien arrangé. Donc il y a du travail qui a été fait, hein. Et ce matin en venant, je suis venu un tout petit peu plus tôt, et j'ai cru que vous avez déménagé, parce que j'ai vu que c'était en travaux et tout, je me suis dit, waouh, ils sont partis, c'est pas là. J'ai eu peur un petit peu, hein. Mais bon, ça va. Alors, je me présente, hein. Je me prénomme Youssef. Rapidement, je donne rapidement mon petit témoignage et ensuite je vais vous faire voir quelques photos de notre service dans le sud de la France, Marseille. Voilà, on entend souvent parler de Marseille, mais on va voir autre chose. Donc. Alors, moi je suis lyonnais, hein, je suis vénitien, pas loin d'ici. Hein. Je suis de Vénissieux, quartier des Minguettes. Donc, je suis né il y a très très longtemps. J'ai pas de cheveux, mais il y a pas longtemps de ça, j'avais des cheveux. Et là, ils sont tous partis en vacances. Et donc, ma famille, mes frères, mes sœurs, ils sont tous à Vénissieux. Hein. Je suis le seul à avoir émigré à Marseille. Bon, ça arrive, hein. Ça arrive. Et donc, moi, j'ai rencontré vraiment le Seigneur rapidement. Je crois que plusieurs connaissent. Vous connaissez Mustapha Krim ? Ouais, vous connaissez, je sais, c'est pour ça que j'ai sorti. Vous êtes bien là, hein. Alors, je suis une génération après Mustapha Krim, hein. Je suis un tout petit peu plus jeune que lui, mais j'ai rencontré le Seigneur grâce à une noble missionnaire des Blandonniers, Anne-Marie, vous connaissez Anne-Marie Blandonnier, donc c'est une dame qui est encore vivante, qui est en Suisse, à Genève, et qui est venue à la période où les Minguettes brûlaient. Les années 80, 83. 83, c'est chaud. On a fêté les 30 ans de la marche des beurs, ou je sais pas quoi. Marche de l'égalité contre la racisme. On va en parler cet après-midi un petit peu. Et donc, Anne-Marie est venue, et donc dans le quartier des Minguettes, hein, pour annoncer la bonne nouvelle. Hein. La bonne nouvelle. Alors, je me rappelle, elle nous le disait hein, dans les histoires, quand elle est arrivée en 83, elle est partie voir directement le maire de la ville, qui est un maire communiste, Monsieur Marcel Houël, qui est décédé, bien sûr. Et le maire l'a regardé et a dit, non mais, vous êtes une jeune fille, jolie, grande, belle, vous venez de Suisse, pays du chocolat et de l'argent, stéréotype, hein. On va en parler aussi cet après-midi, les stéréotypes et les clichés. Et vous venez ici, alors que ça brûle, la semaine dernière, les camions de policiers, ils ont jeté des lave-vaisselle sur les camions de policiers. Qu'est-ce que vous venez faire? Elle a dit, ben, je viens juste parler de Dieu et de Jésus dans le quartier. Elle a dit, mais c'est qu'un quartier d'arabe, ça va pas. Elle a dit, mais justement, je suis venu pour eux. Alors le maire a dû la voir tellement passionnée et tellement sûre d'elle, lui a dit, ben, il lui a donné tout de suite une clé d'un petit local qui se trouvait dans notre quartier, donc. Hein. Les tours n'existent plus maintenant. Hein. Elles n'existent plus. Et c'est là qu'elle a annoncé l'évangile en des années. Et c'est là que j'ai accepté Christ, hein. Enfin, j'ai été au contact de la Bible, de l'Évangile, de Jésus-Christ, et que j'ai pu accepter tout simplement. Alors j'avais mes frères, mes sœurs aussi, hein. Il y avait tout... Bon, pour l'instant, il n'y a que moi qui ai accepté la bonne nouvelle, qui a accepté Jésus-Christ comme sauveur. Mais on ne désespère pas, hein, parce que mes frères et sœurs entendent encore, grâce à des frères et sœurs qui font encore au marché, là, qui rencontrent, je vois Christophe qui connaît mon frère, enfin, il y a toujours des contacts, hein, et ça c'est une bonne chose. Hein. Et aussi le témoignage relationnel qu'on va voir bientôt, là, à travers la prédication. Alors c'est vraiment un court témoignage, hein. il y a beaucoup plus d'autres choses, hein, mais rapidement, parce que là le temps il passe. Et on va voir quelques photos, un petit peu ce qu'on fait à Marseille, moi et mon épouse. Alors, moi, je suis envoyé, je fais partie de l'église de Villeurbanne, tu sais, pas loin d'ici, hein. Florent Varac, enfin, le pasteur et Florent Varac, c'est pas son église, mais pasteur et Florent Varac, et je suis envoyé, donc depuis maintenant 12 ans, à Marseille. Enfin, d'abord, on est parti à Paris, parce que ma femme est enseignante, donc ils l'ont muté, hein. Lyon, Paris, Paris, Marseille. Mais ça suivait le circuit normal, hein, c'est ce qu'on voulait aussi. Hein. Elle est du sud, c'est pour ça. Alors, c'est une bonne chose. Donc, nous sommes arrivés à Marseille en 2003, donc ça va faire 11 ans. Hein. Et ce qu'on fait, donc, ben, c'est surtout de l'évangélisation, ce qu'on appelle relationnelle. La majorité d'entre nous, presque tous, le faisons. Hein, en contact avec les, ben, avec les gens, avec nos voisins, nos collègues de boulot, de la fac, et nous, plus spécifiquement à travers les clubs d'enfants, et on va voir ça, hein, club d'enfants à Marseille, centre-ville de Marseille, qui est une banlieue. Marseille, c'est la seule ville, c'est comme aux États-Unis. Marseille est la seule ville où il y a des banlieues, quand on dit banlieue, voilà, qui se trouvent en plein centre de Marseille aussi. Il y a les quartiers nord, on pourrait dire, c'est les quartiers un petit peu de la région est de Lyon, quartier nord, mais aussi dans Marseille centre, bon, il y a le Vieux-Port, mais juste derrière, à trois rues du Vieux-Port, et ben, ben, banlieue, voilà. C'est surtout les primo-arrivants qui arrivent. Comme Marseille est un port, c'est les primo-arrivants. Donc, on a beaucoup de l'Afrique du Nord, Afrique subsaharienne, Comores, et c'est là qu'on fait le club d'enfants. Alors, je suis le chemin. Ça marche, Max. Merci. Tu es un champion. Merci, Max. Alors, ça, c'est ma famille. C'est ma famille, donc j'ai trois enfants. Hein. Trois enfants, deux filles et un garçon. On va les voir. Salomé, c'est la grande. Solal, c'est le garçon, il arrive au milieu. Et ensuite, bien sûr, on a une petite fille, Sanaï, 6 ans. Alors, 11, 8 et 6. Voilà, trois enfants. Hein. Hop. Des fois, ça marche pas. Si, merci. Alors, ce qu'on fait, donc les clubs d'enfants, ce qu'on appelle le club Marhaba, bienvenue, hein. Je suis dans un, avec une mission, enfin, administrativement, je suis avec la MENA, donc je suis envoyé par l'église de Villeurbanne, QC, mais administrativement, je suis avec la MENA, ministère évangélique parmi les nations arabophones. Et donc, on fait aussi un club, donc, club d'enfants qu'on appelle Club Marhaba. Et ça, c'est chaque mercredi. Il y a à peu près une dizaine d'enfants hein, des quartiers de Marseille qui viennent. Bah, essentiellement des musulmans, presque tous. Hein. Et bah, vous connaissez... Qui c'est qui fait les clubs d'enfants ici? Est-ce que vous faites des clubs d'enfants? Ou qui a déjà fait avec l'AEE ou... Oui. 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 OK. Bah, c'est chants, histoire, beaucoup de jeux. Vous savez, le goûter. Certains viennent qu'au goûter. Hein. À 4h moins 15, il y en a encore ce mercredi, là. Mercredi, il y en a 5 qui sont venus au goûter. Mais ça va, hein? Ça va, parce que moi, il y a 30 ans, je faisais pareil. Enfin, ouais. Donc, ça va. Ça va. Au goûter. Donc, chant, les histoires. Il y a des mamans qui viennent. Hein. Il y a toujours une maman qui est assise, là, qui s'appelle, qui est là-bas à droite, là-bas, avec le voile, qui s'appelle Warda, qui vient. Ça fait 10 ans que je la vois. Sa fille, maintenant, est adolescente, mais elle vient, elle. Même si, voilà. Elle aime bien. Et il n'y a pas si longtemps, je dis, mais Warda, je parle en arabe, je dis, voilà, pourquoi tu viens? Elle me dit, c'est trop bien ici. C'est 2 heures, trop bien. Mais elle m'a dit, moi, je suis toujours ma rabbi, je suis toujours avec, ça va, hein, musulmane. Ok. Alors ça, c'est chaque mercredi, hein. Ensuite, on a aussi le club d'enfants, ce qu'on appelle, mais ça, c'est dans notre village. On habite à 20 km de Marseille, donc c'est un petit village provençal, 6000 habitants. C'est pas les quartiers nord, c'est village d'enfance de ma femme. Bon, voilà. Et ce qu'on appelle, on fait comme le club d'enfants de Goutéo. Alors là, il n'y a pas de musulmans. C'est plutôt catholique, athée, et c'est donc c'est tous les camarades de nos enfants de l'école. Et là, on a un petit peu plus, il y a une vingtaine d'enfants qui viennent, avec leurs parents. On a dit, il y a 2 ans quand on a commencé ça, on a fait une réunion avec les parents, on leur a dit, écoutez, on va faire un club d'enfants. Ce n'est pas un anniversaire. C'est-à-dire, c'est pas la peine d'emmener vos enfants et de laisser vos enfants pendant 2 heures. Il nous faut un ou deux parents. La raison, comme ça, bah, vous apprenez ce qu'on fait, ce qu'on raconte hein, à Goutéo. Et aussi, pour pas qu'ils nous prennent, qu'on soit pour une secte. Vous avez pu se voir, vous comprenez. Et puis le troisième derrière objectif, derrière notre tête, c'est que les parents puissent nous dire, ça nous intéresse, nous. La Bible nous intéresse. Enfin, ce que vous racontez, c'est pas n'importe quoi. Enfin, bon. Et Goutéo, donc, c'est vraiment notre village, un samedi par mois. Hein. parce qu'on fait un gros goûter derrière. C'est pour ça qu'on l'a appelé goûter au. Vous voyez le jeu de mots là, non? Le jeu de mots, c'est le goût pour la théo. Alors, je vais être humble, c'est pas moi qui a trouvé ça, c'est pas moi. Je suis pas créatif, moi. C'est une collègue protestante du village qui est artiste. Enfin, elle s'appelle Magali. Elle est artiste, elle a trouvé tout de suite en 2 minutes. Vous savez, il y a des gens, personnes qui ont des dons comme ça, hein. Artistique, manuel, et hop, le goût pour la théo. Elle a mis goûter. Oh! Même moi, j'ai mis du temps à comprendre. Hein. Même moi. Hein. Et surtout, c'est un gros. Alors, mon épouse avec l'autre Magali, donc mon épouse s'appelle Magali, mais avec l'autre Magali, il s'occupe des petits-petits, et moi, je m'occupe des ados. Alors, juste pour mettre un petit. On a souvent du soleil, nous, chez nous. Hein. On peut se permettre de faire ça dehors. Hein. Souvent. C'est vraiment une grâce, hein. Enfin, ça nous aide. Et donc, avec les ados, c'est plutôt d'autres discussions. Je m'occupe des ados, moi. Et j'étais aussi animateur, éducateur dans les centres sociaux à Villeurbanne, au Buère. Donc, je sais comment ça peut fonctionner. Bon, déjà, je le fais à Marseille. C'est déjà autre chose. Alors là, ça va aussi. Et donc, on fait des bonnes discussions avec les ados aussi, hein. De leur âge, quoi. Avec la Bible, bien sûr. Et bonnes discussions avec les parents à travers les goûters. Alors, les parents, ils viennent, ils restent. Ils emmènent des goûters aussi, hein. Et ça, c'est une bonne chose. Alors ça, c'est aussi une autre chose qu'on fait. Comme je suis un formateur en interculturel aussi, c'est une autre partie de mon ministère, et je fais des cafés de la diversité dans les cafés. Pas mal, ça, hein? Dans les cafés, je mets, hein, déjà dans mon village, après à Marseille, et puis je vais dans les centres sociaux aussi. Hein. Mais surtout là, voilà, diversité de chacun, c'est la richesse de tous, donc c'est le cas au longtemps. On parle des préjugés, clichés, racisme et tout cela. Et en général, les gens qui assistent, même si je ne parle pas de foi, de religion, les gens posent la question. Il y a souvent des gens qui disent, mais nous, on n'est pas racistes. Mais... mais ça va, hein. C'est nous, ce qui nous dérange, c'est telle population, avec telle religion. Après, en savoir plus, venez cet après-midi. Hein. Venez cet après-midi. Préjugés, clichés, tout cela. Hein. Et d'autant plus pour nous qui vont... Tous les préjugés, clichés, les idées reçues qu'on a vont mettre des barrières pour notre partage de la bonne nouvelle. Et bon, voilà. Ça fait de la diversité. Une fois par mois, normalement. Et surtout, la grosse partie de mon ministère aussi, c'est les voyages en Afrique du Nord et en Algérie. Donc, je suis d'origine algérienne, mes parents viennent d'Algérie. Et donc... faire des voyages en Afrique du Nord pour aller visiter les frères et les sœurs, non pas de Kabylie, je sais que vous connaissez très bien la Kabylie, Béjaïa, grâce à Moustapha et ce qui, son ministère là-bas, mais moi je m'occupe surtout de la partie arabophone. Donc les frères et sœurs derrière les musulmans, mais qui sont dans les villes arabophones. Donc là on était à Annaba, à la frontière tunisienne, et moi je suis Biskra, plus au sud-est. Hein. Et donc c'est des frères dans différentes villes, tout ça c'est des frères de différentes villes. Biskra, Annaba, Batna, Sétif, enfin. Et lorsque j'y vais, donc c'est pour rester des week-ends, des semaines dans différentes villes, bah pour faire du partage, hein, et des enseignements. Là, c'est un enseignement sur le couple. Le couple avec surtout les visions du monde, du couple, surtout quand on vient d'une culture, de la religion musulmane, et qu'on l'évangile rentre dans le couple, ben, il faut trouver un petit équilibre. Alors déjà, quand on se marie, la même culture, la même foi et tout cela, l'équilibre, il est un petit peu dur. Alors quand... Bon, voilà, c'est un petit peu... Alors, j'y vais, voilà, dans différentes villes. Hein. Il faut vraiment prier pour ses frères, parce qu'ils se rencontrent dans l'église. C'est dans la maison, église de maison, comme dans les actes. Ils vivent cela. Alors, ils n'ont pas une persécution, on n'est pas en Afghanistan ou au Nigeria hein, ou en Soudan. Hein. Mais la persécution qu'ils peuvent avoir, c'est surtout au travail. Surtout quand il y a le ramadan qui arrive. Et que là, tout le monde fait le ramadan. Ils disent, bon, allez, venez, on va faire le ramadan, arrête ton travail, on va faire la prière et tout cela. C'est surtout à ce moment-là que c'est un petit peu dur. Et aussi pour les jeunes, hein, tout à l'heure on parlait des ados, des jeunes adultes, avec leurs collègues, hein, ou leurs amis et tout ça, ça c'est... Alors déjà c'est dur pour nos ados ici en France, pays, laïque, sécurisé, mais surtout dans un pays musulman, à 99%. Vraiment prier pour les parents, mais aussi je pense aux enfants. Moi je pense beaucoup aux enfants et aux jeunes ados. Hein. Parce que comme dirait l'autre, c'est l'église de demain.
Exact. Pour le ramadan, les ados,
ça dépend des familles. Bonne question. Ça dépend des familles. S'il y a des familles qui sont bien, bien ancrées dans la foi, c'est connu, ils peuvent... non. Mais celles qui viennent de se convertir grâce à la radio, grâce à Internet, grâce à... Ouais, satellite, merci. C'est un petit peu plus difficile. Donc il y en a certains qui continuent à faire ramadan. Et même, moi on m'a déjà posé la question, les frères m'ont dit, est-ce que je dois faire ramadan? J'ai dit, écoute, regarde bien son contexte, ta famille, comment ça marche. Faire ramadan, si tu veux. Moi j'ai fait ramadan jusqu'à 7 ans après ma conversion. C'est pas... Parce que j'habitais toujours chez mes parents, j'étais toujours au quartier. Enfin, c'est pas comme ça, hein. Enfin, tendanciellement une fois tous les 3 mois, donc, hein, avec le repas et tout cela. C'est des moments très forts, hein. Très forts, ça, hein. Et d'encouragement surtout. Autrement, je continue toujours à les appeler par Skype ou par téléphone. Hein. Alors, bon, bien sûr, c'est des prières et tout ça. Et donc, il y a un frère, là, ce couple, il s'occupe de toute la partie est de l'Algérie. Annaba, Constantine, Sétif et tout cela. Ils vont visiter des nouveaux croyants. C'est-à-dire des gens qui se convertissent grâce au satellite. Et bien après, il y a un numéro de téléphone qui passe de Oran, après Oran appelle les différentes parties, il y a on peut dire que c'est un couple missionnaire. Eux, ils vont visiter des frères et des sœurs. Il faut vraiment prier pour eux, parce qu'ils ont beaucoup de routes. Et puis quand on arrive dans une ville, en général, ils se rencontrent, si c'est un homme, ben, on se rencontre dans un café, j'ai déjà été avec le frère Adèle, dans des cafés, et si c'est des jeunes dames, ben, il emmène son épouse. Et si c'est un couple, ils y vont à deux. Enfin, c'est vraiment un ministère très fort. Et on peut prier pour eux, hein, pour tous ses frères et tout cela, d'encouragement et tout ça. Donc, Adel Moufida et puis d'autres aussi. Hein. D'autres. Voilà un petit peu. Donc, parti ici dans le sud de la France. Beaucoup de clubs d'enfants, les rencontres avec les parents. Et mon ministère aussi d'itinérant, hein, comme aujourd'hui, je viens dans vos églises. La dernière fois, j'étais à Mulhouse, dans un centre social, et ensuite dans une église, pour parler d'interculturalité, et surtout la culture dans la Bible. Comment ça marche? Et comment rentrer en relation avec une personne d'une autre culture? Ou d'une autre religion, mais dans la culture, on englobe les croyances et les religions. Mais on va en parler cet après-midi. Voilà un petit peu notre ministère. Et ça, c'est l'église, une cathédrale qui se trouve à Annaba. Dans les grandes villes algériennes, hein, à l'indépendance, les cathédrales, elles n'ont pas bougé, hein, mais elles sont vides. Alors celle-ci, il y a encore des sœurs dedans, et un prêtre, cathédrale Saint-Augustin, bien nommée. Hein. Et toutes les cathédrales, c'est comme Fourvière, hein, elles sont toutes sur la montagne, à Alger, Annaba, Oran, Constantine, toutes sur la montagne, imposantes. Elles viennent d'être refaites, hein, grâce au gouvernement français, grâce au conseil régional de Marseille, Bouches-du-Rhône, enfin PACA. Enfin, ça a été refait, là, juste cette année. Et autrement, dans d'autres cathédrales, des fois, c'est des musées ou des bibliothèques musulmanes, islamiques. Voilà, on va passer à la prédication. Ben, pour me poser des questions cet après-midi au cours du repas, hein, parce que je suis là encore cet après-midi. Donc, restez là. Hein. Max, c'est bon, tu peux arrêter. Bien. Alors, moi, je vais vous inviter à ouvrir la Bible. Dans deux rois. On va rester dans l'Ancien Testament, c'est pas mal. On va rester dans l'Ancien Testament. J'ai un frère vers mon village, il me dit, oh non, moi j'aime pas lire l'Ancien Testament, c'est trop dur, il y a trop de morts, c'est difficile. Je lui dis, bon, tu n'as pas tort, mais il faut passer par là, hein, on en a besoin de l'Ancien Testament. Hein, parce que ça nous parle des bonnes choses. Hein. Alors on va ouvrir dans le livre de deux rois, chapitre 6. Alors, on va trouver, on a parlé beaucoup de désert ce matin dans le moment de louange, et c'est super, hein. Merci, hein, pour ce temps-là. Et surtout, on va continuer justement dans la famine spirituelle. Une famine spirituelle ou une soif spirituelle. Et comment nous, en tant que croyants en Dieu sauveur, rédempteur, comment on peut témoigner tout cela d'une manière relationnelle avec d'autres qui nous entourent, membres de nos familles, au boulot, à la fac, au lycée, le voisinage, et comment? Et on va voir une belle histoire qu'on trouve dans Deux Rois. Hein. Alors, qui se trouve dans le chapitre 6 hein, du livre des Rois, et là, il y a un grand contexte. C'est à la fin du chapitre 6 et on va voir aussi le chapitre 7. On ne va pas tout lire, mais on va voir quand même les grandes lignes. Alors là, dans le chapitre 6, il y a une famine, une famine importante. Et c'était du temps du prophète Élisée, une famine immense. Il n'y avait littéralement plus rien à manger. C'était l'horreur. Le manque de nourriture était tel qu'il ne restait plus rien à manger. Et on voit ça dans le verset 25, qui dit qu'il y a une telle grande famine. Le siège fut tel, il y avait aussi la guerre, enfin, la ville était prise par les assaillants. Il y avait une telle famine, le siège était tel qu'une tête d'âne finit par valoir 80 pièces d'argent. Et le quart d'un cap de fiente de pigeon, 5 pièces d'argent. C'est énorme, hein? Pour le peuple d'Israël, la viande d'âne était tout aussi impure que la viande de porc. C'est terrible. L'horreur. Famine, donc, il fallait... je ne sais pas qui c'est qui a déjà vécu la famine. C'est une chose peut-être dure. Et là, la situation était si grave que les gens vinrent même à se manger les uns à les autres. Regardez, verset 28-29. Cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous mangerons aujourd'hui. Et demain, nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils, que nous le mangions. Mais elle a caché son fils. Je comprends pourquoi mon ami et frère en Christ, Jean-Pierre, me dit, oh là là, c'est dur l'Ancien Testament. C'est clair, quand on lit comme ça, il y a un contexte, hein, mais quand on lit comme ça, on dit, on va passer tout de suite au Nouveau Testament. La grâce, l'amour, la miséricorde, le pardon. Et c'était la situation, c'était vraiment une tragédie terrible, une telle tragédie. Pour que les gens soient réduits à une telle extrémité, c'était horrible. Horrible, horrible, horrible. Et sûrement que la souffrance de ces gens était indescriptible. Et aujourd'hui même, beaucoup de gens autour de nous, je pense que vous devez en connaître, autour de nous, cherchent des solutions pour remplir leur vie, pour remplir leur être. Ils se nourrissent dans des choses les plus mauvaises, que ce soit l'alcool, que ce soit la drogue, que ce soit aussi bien tout ce qui est psychotrope, etc., etc. On va faire des parallèles, et là c'est un parallèle immense, parce que la France est au premier rang des pays consommateurs d'antidépresseurs de toutes sortes. D'antidépresseurs de toutes sortes. En fait, les gens n'ont plus d'espérance. Hein. Quand on commence à discuter avec certains, les gens n'ont plus d'espérance. Hein, et ça, c'est une chose importante. Et surtout, ben, certains se tournent vers des figures politiques. Surtout que bientôt, il y a les élections. Hein. Enfin, et j'ai vu des affiches, la Vénitieux et tout cela, tout le monde promet des belles choses, hein, même dans mon village. Hein. Tout le monde, des figures politiques, médiatiques, des sommités dans les domaines économiques. Et tout le monde veut se tourner, ou même religieux, que ce soit dans le bouddhisme, dans l'islam, ou dans des philosophies autres. Et surtout, tout le monde compte sur elle pour leur apporter des solutions. Il y a vraiment... une telle souffrance. Et comme là dans le contexte, les gens de Samarie finirent par se manger les uns les autres. Terrible. Désarroi total. Et plutôt de se tourner vers Dieu, dans le contexte, le roi s'en prit au prophète Élisée. Et là on arrive, le roi dit au prophète Élisée, il même lui fit même porter la responsabilité de la famine. Verset 31, regardez ce qu'il dit. Et le roi disait, que Dieu me fasse ceci et qu'il ajoute cela. Si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. C'est vraiment l'horreur. Et je pense que parfois l'Église vit des situations, parfois ce type de situation, pas si terrible que ça, mais ce type de situation. Parce que le contexte dans lequel nous vivons est difficile. Et surtout le contexte sociétal dans lequel on vit en ce moment. Hein. Pas simplement qu'en France, hein, mais dans d'autres pays aussi. Difficile. Et il existe différents courants de pensée, différentes théologies, différentes sources d'informations. Et parfois les gens se bâtissent leur propre théologie. Leur propre théologie, leur propre système de valeurs. On va en parler aussi cet après-midi, les systèmes de valeurs. Leur propre système de valeurs. Et on évolue, nous évoluons dans une société dominée par les nouvelles technologies. Bon, on a vu, hein, regardez, nouvelles technologies, Internet, alors, pour le bien, et parfois pour le mal, pour le moins bien. Et ça, c'est vrai. Nouvelles technologies, Internet, qui permet à chacun d'avoir un petit peu une culture à la carte. Un petit peu tout cela. Et ainsi, l'Église, ben, parfois, ne sait plus comment répondre à certaines interrogations. Comment répondre à certaines interrogations? Comment répondre à certaines religions ou certaines philosophies? Parfois. Alors, aussitôt après l'arrivée du messager du roi, et on passe au chapitre 7, là, le prophète dit, prit la parole. Deux rois, chapitre 7, versets 1 et 2. Il prit la parole et regardez ce qu'il dit. Alors écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Demain, à cette heure-ci, on aura un séa de fleurs de farine pour un cycle et deux séa d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'écuyer du roi sur la main duquel il s'appuyait répondit à l'homme de Dieu. Certes, regardez la moquerie, hein, et voilà. Certes, le Seigneur fait des fenêtres au ciel, mais cela pourra-t-il se produire? Élisée répliqua. Tu le verras de tes yeux, mais...
Tu n'en mangeras pas.
Exact. Exact. Tu le verras, mais tu n'en mangeras pas. On va le voir à la fin qu'il ne va pas en manger, bien sûr. Et ça, c'est une chose importante. Alors, bien sûr, dans ce contexte extrêmement difficile, le prophète quand même annonce une bonne nouvelle. N'oublions pas le contexte. C'est une famine terrible. Hein. C'est l'horreur. C'est plus que le désert. Il n'y a plus rien. Et ça, c'est chose. Et rien ne va dans la société. C'est pas un petit peu, parfois, en regardant les infos, de dire rien ne va dans cette société. Si, hein. Bon, rien ne va dans cette société, hein. On peut se dire ça, hein. Et aussi, parfois, on finit par devenir des prophètes de malheur. Parfois, lorsqu'on parle à nos collègues, hein, ils disent, mais qu'est-ce que tu nous racontes, là? Ça va pas, ça. Et dans ce contexte de famine spirituelle qui nous entoure, je pense qu'on peut être aussi, et c'est ce qu'on va voir, des prophètes d'espérance, comme Élisée, des prophètes d'espérance. Et moi, je voulais parler, et c'est pour ça qu'on va parler rapidement d'évangélisation relationnelle là-dedans. Parce que l'évangélisation relationnelle a pour objectif d'incarner l'amour inconditionnel de Jésus-Christ. L'incarnation de l'amour inconditionnel de Jésus-Christ. Dans cette situation de famine spirituelle, de famine parfois idéologique, de famine relationnelle aussi. Il n'y a qu'à voir dans les métros de Paris, de Marseille, de Lyon, de partout. Les gens, ils ont tous maintenant leur casque. Plus personne ne se dit bonjour. Plus personne ne se dit bonjour. Parfois, on se dit, waouh, c'est dingue, ça. Et c'est pour ça que cette histoire d'amour inconditionnel de Jésus-Christ, elle est au cœur de toute rencontre. On a parlé de rencontre aussi tout à l'heure, hein, dans notre louange. La rencontre. Cette rencontre qui nous engage, qui engage chaque croyant, chaque chrétien, dans justement cet amour christique. Un amour christique. Afin que les gens puissent dire tiens, t'es différente des autres. Oh, toi, t'es vachement différente. T'es pas comme les autres. J'aime bien, moi, lorsqu'une personne vient vers moi, me dit t'es différente des autres. Déjà, ça engage une bonne discussion. Hein. Mais ça, c'est super, ça, non? Je sais pas si ça vous arrive souvent, ça.
Très souvent.
Très souvent. Bah, tant mieux. Ouais, ça m'arrive moi aussi, il me dit, oh, toi t'es différent, t'as pas de cheveux, t'as pas de sourcils, t'as rien. Mais ça va aussi, hein, ça donne une discussion, ça donne une discussion. Mais en fait, l'évangélisation déborde, et vous savez, parce que vous faites l'évangélisation aussi d'une manière ou d'une autre, ça déborde du cadre des pratiques religieuses communautaires, traditionnelles. Des pratiques communautaires traditionnelles. Traditionnelles. Parce que tout simplement, son cadre d'action se situe dans la relation quotidienne. Et ça, ça change toute chose. Alors, on va voir trois principes rapides. Premier principe. Annonçons la bonne nouvelle dans la simplicité, frères et sœurs. Est-ce que c'est possible, ça? Déjà d'une, qu'est-ce que ça veut dire? Pas mal. Dans la simplicité. En fait, donnons envie aux autres de ressembler à Jésus. Donnons envie aux autres de ressembler à Jésus. Apporter l'évangile, ce n'est pas défendre des idées. Hein. Ce n'est pas défendre des idées ou se, parfois on trouve se chatouiller l'intellect, vous savez, surtout nous en France. Hein. Cliché, stéréotype, ce que vous voulez, mais c'est vrai que la France, pays de Descartes et des Lumières, on aime bien l'intellect. Et surtout aussi, pas mal, nous, dans nos milieux où on aime bien la parole de Dieu, on aime bien tout prendre, les écrits, et... donc l'intellect. Pas mal, hein? Mais pas forcément défendre les idées et tout cela. Mais apporter la bonne nouvelle, c'est dire aux autres qu'aujourd'hui, rien ne va plus. C'est vrai, c'est un constat, c'est vrai. C'est normal. On sait pourquoi, nous. Rien ne va plus. Mais demain, les choses vont être différentes, car Jésus va revenir. On commence à rentrer dans l'espérance, là. Jésus va revenir. Annoncer la bonne nouvelle dans la simplicité. Deuxième principe de cet épisode. Apportons la nourriture aux affamés. Apportons la nourriture aux affamés. C'est pas mal, ça. Et à la suite de Deux Rois, chapitre 7, hein, verset 5-6, il y a quatre lépreux qui sonnaient à l'entrée de la ville, qui eux aussi... Alors, ils étaient lépreux, les pauvres, en dehors de la ville, en quarantaine, très loin de la ville. Mais en plus, il y avait la famine. Mais comme ils étaient lépreux, déjà, ils étaient loin. Hein. Alors, ils se sont demandé... s'il était préférable, ils avaient un ou deux choix, s'il était préférable de mourir de la lèpre ou de mourir de famine. Alors, ou aussi de l'attaque des Araméens, parce que c'était les Araméens qui les encerclaient. Eh bien, ils ont conclu que la faim était le pire des maux. La faim, c'était le pire des maux. C'est vrai, ça. La faim était le pire des maux. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'ils sont décidés de se rendre dans le camp des Araméens. Et ils se sont dit, hein, si nous disons, entrons dans la ville, comme la famine est dans la ville, nous y mourrons. Si nous restons ici, nous mourrons également. Allons donc nous livrer au camp des Araméens. Et si nous laissent vivre, nous vivrons. Si nous font mourir, nous mourrons. Verset 4, chapitre 7, verset 4. Pas mal. En fait, ils sont allés, ils ont fait une décision, ils sont allés, ben, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Le camp était vide. Personne. Le camp était vide. Et bien sûr, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? De la nourriture. Alors, la parole nous dit, ils mangèrent, ils burent, et puis prirent tout ce qu'ils trouvèrent. Alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? De l'argent, de l'or. C'était les Rothschild de l'époque. Ou les Crésus. Ils allaient devenir Crésus, mais heureusement que la suite, elle est meilleure. Et qu'est-ce qu'on peut dégager de ce petit épisode, de ce petit verset? Ben, ces quatre hommes, ils étaient malades, en fait. Des parias de la société. Personne ne les voulait. Ils étaient en quarantaine. Plus, il y avait la famine, les pauvres. Mais Dieu les utilisa pour nourrir les autres. Et on va voir la suite de l'histoire. Pour nourrir le peuple. Dieu est prêt à nous utiliser. Avec nos faiblesses, avec nos défauts, avec nos infirmités, avec nos... tout ce qu'on veut. Et chacun pour soi. On sait nos manquements et nos péchés. Dieu est prêt à nous utiliser. Et on n'a pas à être des faux idéalistes et dire des faux idéalistes ou à rechercher l'angélisme, frères et sœurs. L'angélisme. Dieu nous utilise si nous sommes prêts à nourrir les autres. Dieu nous utilise où que nous soyons, si nous sommes prêts à nourrir les autres. À nourrir de la nourriture vivante. Jésus, le pain de vie, la source d'eau vive. On l'a dit. Si on est prêt. Quand il veut parler de Dieu, il utilise des êtres humains faits de la même pâte humaine que nous. Et je crois qu'on a tous des témoignages, là, j'en suis sûr. Là, voilà, super. Chacun en ce moment, vous devez dire, ben ouais, moi là, Dieu m'a utilisé, alors j'étais pas prêt. Là, Dieu m'a utilisé, j'ai pas fait l'IBG. J'ai pas fait nos gens sur man. Dieu m'a utilisé grâce à un sourire. Dieu m'a utilisé avec mon bébé. Et ça, c'est une bonne chose. Sommes-nous prêts? Ça, c'est une bonne chose. Troisième principe, rapidement, encourageons les gens à venir voir. Après cela, qu'est-ce qu'ils ont fait les quatre lépreux? Eh bien, ils se sont dit, ils ont réfléchi, ils ont pris conscience, ils ont dit, mais on ne peut pas garder tout ça pour nous. C'est pas bon, ça. Pourtant, ils avaient l'occasion. Hein. Vous pouvez dire, bon, nous, on était lépreux, on va mourir de façon de la lèpre, personne ne nous aime. On est bien, on a de l'or, on a de l'argent, et grâce à Dieu, on est vivant. Mais non, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Nous n'agissons pas comme il faut. Ce jour est un jour de bonne nouvelle. C'est un jour de bonne nouvelle. Amen, exactement. Et venez maintenant, allons faire un rapport à la maison du roi. Et bien sûr, ils sont partis pour dire aux autres et leur dire, venez manger avec nous. Bon, bien sûr, rapidement, hein, le roi était dubitatif. Le roi, il a dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes quatre lépreux, vous voulez nous dire que le camp est vide? Pourtant, ils lui ont emmené l'or, l'argent. Quand on lit l'histoire, on dit, mais c'est... Ce roi, ben parfois, je ne sais pas pour vous, frères et sœurs, pour moi, pour ma femme aussi, pour ceux, lorsqu'on témoigne parfois hein, à des collègues et qu'on a bien expliqué, on a été l'amour christique suprême, les gens, comme le roi, qu'est-ce qu'ils font? Doutent, en donnant des phrases magnifiques, des phrases, comme dirait l'autre, très bien construit, avec une belle syntaxe, à la française. Magnifique. Par exemple, oh ben non, c'est bien pour toi, j'ai compris, mais pas pour moi. C'est super. Oh, toi, tu vis bien. C'est super. Non, mais nous aussi, on vit bien en boîte de nuit, c'est super aussi. Merci. Oui, c'est bien. Voilà, j'ai envie de ta foi. Mais je la veux pas. Vous connaissez ce genre de phrase? Vous la connaissez ou pas? Mais oui, j'en suis sûr. J'en suis sûr. Et bien souvent, c'est comme le roi. Et parfois, et ben, cet épisode nous montre que comme le roi, il faut laisser ces gens, ces personnes, nos gens, nos familles qui prennent du temps, nos voisins qui prennent du temps, de cheminer, de permettre aux gens de cheminer selon leur propre liberté. Selon leur propre liberté, de faire leur propre choix. Comme moi. Moi, j'ai des sœurs, c'est elles qui m'ont emmené au club d'enfants. Ma sœur Myriam et ma sœur Samounin et tout ça. Ben, elles n'ont pas fait le choix de Jésus. Mais maintenant, elles peuvent venir, mes sœurs, ici, assister au culte, assis là, chanter les chants. Magnifique. Mais elles n'ont pas fait le choix de Jésus-Christ comme sauveur. Et elles-mêmes, mais surtout ma sœur Myriam, elle parle de Jésus. Elle dit, oui, c'est ça va. Mais vous la laissez, propre choix, à leur rythme, tout le temps, continuons à prier, ça c'est une bonne chose. Et surtout, prenons les gens là où ils sont, en les respectant. Parce que parfois, on veut leur donner l'évangile, c'est une bonne chose, hein. La Bible, rien que la Bible. Et on, bien sûr, on leur donne. Et les gens, ben, ils ne sont pas encore là où ils sont, quoi. Et pourtant, on se dit, ben, on fait de l'évangélisation, on donne la Bible. Et ça va bien. Mais parfois, ils ne sont pas là, quoi. Ils sont loin. Alors, des fois, ils font le façade, ils disent, ouais, c'est bien, merci, c'est gentil, oui, je vais la lire, c'est super. Ouais, je crois, je suis venu 10 fois à l'église, c'est super. Mais à l'intérieur, pas ça. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16, 7. Verset qu'on a appris quand j'étais petit. Et ça, c'est une bonne chose. Et c'est pour ça qu'on fait goûter haut les clubs d'enfants et aussi Théo de Luxe, c'est un autre... Théo de Luxe. Et là, c'est pour les parents. Une fois tous les 15 jours, une heure de lecture biblique tranquille, autour du thé, du café. 4 coupes. Chez chaque famille, on tourne tous les 15 jours. Et on lit 10 versets de la Bible. Là, en ce moment, on est sur Jacques. Et discussion et prière, tranquillement. Et ça, c'est une chose. Et bien sûr, inciter les gens à étudier. C'est ce qu'on dit aux amis de notre Théo de Luxe, aux couples. Je leur ai dit, mais il faut lire, hein. Bon, ils sont catholiques. Ils n'ont pas l'habitude d'ouvrir la Bible. Donc ils m'ont donné ces renseignements. Donc il faut expliquer les mots. Parfois, nous donnons le mot grâce, miséricorde, pardon et tout ça. Les gens ne comprennent pas. Et nous on est là, mais tu ne comprends pas la grâce. Mais nous, ça fait 20 ans qu'on a entendu la grâce. Depuis le flap de petit bébé, là. Voilà, petit bébé il est là, il entend parler de la grâce. Et il sourit. Et il va grandir avec. Mais les gens ont grâce, pardon, rémission des péchés, rédemption, tous ces mots. Bien sûr qu'il faut enseigner, partager. Mais à leur niveau, parfois, c'est trop en hauteur. Et les gens disent, mais je suis pas là, moi, encore. Moi, je suis juste avec mon voisin qui s'appelle Abdullah, et sa barbe me fait peur, et tu me parles de rémission. Et je comprends même pas Jésus-Christ sur la croix. Okay. Bon, non, moi, Jésus-Christ, il est encore sur la croix. Hein. Bon, pour nous, on dit, mais non, il est plus sur la croix, il faut l'enlever, il est parti, il est mort, il est ressuscité. Mais des fois, on est là, hein, on se rend compte, hein, prendre conscience où il est. Bien sûr, incitons les gens à étudier la Bible, hein, ça, c'est qu'un simple principe. Étudier la parole, répondre aux questions des gens, et ça, c'est une bonne chose pour les accompagner. Et je vais conclure avec ça. Ce texte nous invite, frères et sœurs, à ne pas étouffer les autres. Souvent, dans nos réflexes, on est là, on veut étouffer les autres. Parce que c'est urgent, c'est vrai. Et on veut donner une parole d'espérance, comme le prophète Élisée. Les gens, ils sont pas là, en fait. Ils sont pas là. On devrait se poser des questions de temps en temps, hein, suivantes. Hein. Ceux qui nous voient évoluer, ceux qui nous voient marcher, c'est-à-dire les gens de nos familles, les gens au boulot, nos collègues, nos fournisseurs, nos clients, nos copains de classe, à la fac, au lycée, les gens de la crèche, ceux qui nous voient évoluer, ont-ils envie de connaître le Christ? Comment manifester nos valeurs bibliques centrées sur le Christ? Comment manifester nos valeurs bibliques quotidiennement? Quotidiennement? C'est ça qui est difficile. Dimanche, ça va, on est ensemble, on est une centaine. Ça va, hein? Le vendredi soir aussi, c'est bien. On va regarder la vidéo et tout ça, c'est bien. Et tu te dis qu'on est bien. Mais quotidiennement, quand le voisin fait du bruit, quand le voisin garde sa voiture devant chez nous, enfin, des trucs basiques, hein, vous allez me dire. Hein. C'est vrai, hein. Comment manifester nos valeurs bibliques centrées sur le Christ dans un monde affamé? Ce monde, il est affamé, frères et sœurs. On ne parle de théorie du genre, on en a parlé ce matin. Théorie du genre, on nous parle d'autres choses. On parle aussi d'islam qui nous fait peur, c'est la prochaine, voilà. Avant c'était Rome, maintenant c'est l'islam. Avant c'était le communisme, islam maintenant, l'islamisme. Tous les ismes, hein. Connaissez? Les ismes. Et ça c'est une chose, hein. Et je conclue avec ça, juste une citation. Et on va prier. C'est vrai que face à l'avenir, on doit attendre de l'Église qu'avant de donner des conseils aux autres, et c'est vrai, hein, des conseils aux autres, elle cherche à s'élever à la hauteur des attentes en mettant en œuvre en elle des transformations qui s'imposent. Des transformations qui s'imposent. Déjà en nous, hein. L'Église, c'est nous, hein. En nous. L'avenir, le monsieur qui dit, l'avenir appartient à une religion de la sortie de religion. Pas mal, ça. C'est fort, hein, mais c'est encore intellect, hein. Faut en donner un tout petit peu, mais je la redis. L'avenir appartient à une religion de la sortie de religion. On pourra en discuter au repas, hein. On pourra en discuter au repas. À une religion du jamais l'un sans l'autre. Voilà, c'est ça. À une religion du jamais l'un sans l'autre. Qui aiderait à la permanente transition entre un culturel toujours menacé de sclérose et une morale humaniste tentée par un moralisme sans contour. On va s'arrêter là. On va remercier le Seigneur déjà pour sa parole, pour le prophète Élisée, pour les 4 lépreux qui ont apporté la bonne nouvelle dans ce monde affamé. Et que le Seigneur nous aide à emmener la parole de manière simple pour essayer d'emmener les gens où ils sont à rencontrer Christ, pas à rencontrer la religion chrétienne, encore une fois, pas à rencontrer la religion chrétienne, mais à rencontrer Christ. ça va changer toute chose. Christ. On va prier. Seigneur Jésus, merci encore une fois pour ce témoignage. Merci parce que toute ta parole est inspirée de toi. Pour nous instruire, pour nous exhorter, pour vraiment nous corriger parfois, Seigneur. Merci pour cela. Seigneur, merci pour le prophète Élisée. Dans cette situation de famine spirituelle, de famine si dure. Seigneur, merci pour tes paroles d'espérance. Merci aussi, Seigneur, pour ces lépreux qui ont pensé aux autres, Seigneur, et pour pouvoir partager aux autres. Aide-nous, Seigneur, dans notre vie quotidienne, en tant que croyants de Jésus-Christ Sauveur et Seigneur, que nous puissions apporter cette parole d'espérance de ton retour bientôt, et de toi, ton royaume qui est ici, là, et l'Église, nous, Seigneur, nous qui avons mis notre confiance en toi, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur, dans nos vies quotidiennes, vraiment à pouvoir être des lumières autour de nous. Et nous te prions pour les membres de nos familles qui ne te connaissent point, nos voisins, nos collègues de boulot. Nous te prions, Seigneur, tous ceux qui nous entourent, qui sont affamés, Seigneur, et qui se tournent vers des philosophies, des religions, des doctrines, vers la politique. Seigneur, que nous puissions être des lumières, Seigneur, pour leur montrer la source de la vie. Toi, Seigneur Jésus. Merci pour tout et merci encore une fois pour ce temps. Amen.
Merci Michel pour ce que tu nous as apporté, pour ce témoignage aussi. Et puis je voudrais prier aussi pour ton ministère, peut-être. Seigneur, pour les prémariages.